Radio Libertaire 89.4.
Mercredi, 16h. Radio Libertaire, le Ferry Club.
La Radio Libertaire 89.
C'est une expérience unique, nous a dit Richard Zellner, directeur général de l'Institut des Hautes Études Musicales de Montreux. C'est une rencontre exemplaire, une aventure aussi, et puis un défi. Léo Ferré, demain dimanche, 17h, à la Maison des Congrès de Montreux, puis le 11 à Genève, le 12 à la Chaux-de-Fonds, le 13 à Berne, dirigera en effet l'Orchestre des Hautes Études Musicales de Montreux, un ensemble et une école qui, vous le savez, doivent beaucoup à celui qui en eut l'idée de leur fondation, Dimitri Markevitch. La chanson du mal-aimé, Beethoven, Ravel, Les amants tristes et l'espoir, Weekend Show va plus loin avec Léo Ferré.
Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd.
Léo Ferré, chef d'orchestre. Léo Ferré, dans un programme, écrit « La musique me prend souvent comme trois points de suspension ».
L'amour. Oui, je suis ici au bout, je crois, d'une formidable baguette magique. Une fée généreuse qui m'a amené ici. C'est difficile d'en parler, et ça n'est pas difficile. Je veux dire que c'est tellement extraordinaire ce qui m'arrive à moi, que j'aime autant chanter, j'aime autant le dire en musique, ça. Et je pense qu'il y a des tas de choses nouvelles. Et il y a longtemps que je trouvais... Moi, j'allais au concert, par exemple, longtemps, depuis que j'étais tout petit. Le concert, c'était une chose. Le concert, donc, avec les musiciens vivants, en habit, avec leur chef d'orchestre qui arrive, qui salue, qui se retourne. Et puis, moi, je me suis jamais retourné pour saluer. C'est emmerdant de se retourner pour saluer. J'aime autant saluer de face, quoi. Hein? Il se trouve que quand on m'applaudit, je salue, je suis tout à fait de face, tout de suite installé. Alors j'ai pensé qu'on pouvait changer la disposition de l'orchestre, c'est-à-dire qu'au lieu de les mettre les premiers violons à la gauche du chef d'orchestre de dos, on mettra les premiers violons à la gauche du chef d'orchestre de face, c'est-à-dire que moi je suis dans le fond de la scène. En définitive, ça ne change pas grand-chose. Et puis je crois que d'après l'expérience de ce matin, au Palais des Congrès à la répétition, c'est la première fois qu'on a joué avec cette disposition, ça ne change pas grand chose pour les gens qui sont de côté et qui ne voient pas, qui ne voient que des dos de musiciens lorsque la scène est un peu à l'avant, ça ne change rien pour eux. Et d'autre part, du point de vue acoustique, il y avait quelque chose que je ne connaissais pas, je ne savais pas, j'étais un peu inquiet, sans trop d'ailleurs, les cuivres et les bois et les corps se font face, vous voyez. Il y a les cuivres d'un côté et les corps de l'autre. On met toujours les corps avec les bois. Bon. Eh bien, au lieu d'avoir les cuivres et les corps, les gens qui leur envoient leur son dans la figure, les corps et les cuivres ne couvriront jamais l'orchestre. Je crois que c'est une chose que j'ai constatée comme ça et que je suis très content parce que Au fond, on aurait pu me dire, mais mon vieux, vous changez tout, vous changez depuis des siècles, on fait ça, mais pourquoi vous allez contre toute règle bien établie de l'acoustique dans les salles. Voilà, c'est bien.
Léo Ferré devant un orchestre, est-ce que c'est une manière de codifier l'incodifiable?
Ah, c'est intéressant ce que vous me dites. Codifier l'incodifiable. Peut-être, oui.
La solitude, la solitude, la solitude! Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable.
L'incodifiable, pour moi, c'était la musique. La musique est souvent incodifiable parce que la musique c'est de l'art. Et la codifier en public avec des musiciens vivants qui jouent des choses qu'ils doivent aimer. Et c'est peut-être la seule façon de, pour moi de, maintenant de concevoir mes activités d'artiste.
Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable.
Moi, ça rejoint ma jeune enfance. J'ai dit, mon fils qui a 4 ans et demi maintenant, et bien avec, j'attends depuis ce moment-là. J'étais musicien déjà à cette époque-là, et bien sûr, je ne le savais pas. Et encore plus, on ne le savait pas autour de moi, et on n'a jamais voulu le savoir, quoi. Je veux dire que je suis assez content, parce que ça n'est pas de la vanité, c'est de l'orgueil. Moi, je suis orgueilleux pour ce que je fais, et dans ce que je fais. Cela dit, on ne m'a jamais aidé. Je pense qu'on n'est pas un artiste. Un artiste, il doit se céder tout seul ou alors ne rien faire. Ça ne vient pas de moi, vous comprenez. Moi, je ne connaissais pas Markievicz, je ne connaissais pas l'orchestre, bien entendu, puisque j'ai connu Markievicz avant l'orchestre. Ça vient de Dagachat. Dagachat, je l'ai connu lors d'un festival de musique à Vence, il y a 2 ans, et tout ça, ça avait l'air combiné par une sorte de destin fraternel, amical. C'est facile de dire ça, mais enfin, moi, ça m'arrange. Et Dagachat, je l'ai connu au Festival de Vence. Il n'avait pas le temps, parce qu'il devait partir revoir ses enfants en Suisse. Il était à Vence, il m'a dit, j'ai pas le temps d'être avec vous ce soir, je viens d'enregistrer un disque du concerto pour la main gauche, je vous l'enverrai. Bon, c'est tout, il est parti, j'ai eu de la sympathie pour lui. Et imaginez-vous qu'il m'a dit ces jours-ci, quand j'ai eu mon disque, le disque a été pressé, je me suis dit, ouf, est-ce que je le lui envoie parce qu'il va l'écouter ou pas l'écouter, que ça veut dire ça. Il me l'a envoyé. Il me l'a envoyé, j'ai écouté, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, je le lui ai dit, bon, et puis ça allait rester là. Entre-temps, on m'avait proposé, un peu après, on m'a proposé de faire l'année dernière, donc à l'Opéra Comique, de chanter la chanson du mal-aimé. Chanson du mal-aimé, bon. Alors, j'ai dit, il faut que je trouve un pianiste, et immédiatement passé à Dagachat. Je lui ai téléphoné, j'ai dit, seriez-vous disposé à m'accompagner? Elle me dit, oui, mais il faudrait savoir ce que c'est. Je lui ai envoyé la partition, il a reçu le disque, il est venu en Italie, il savait déjà la partition sur le bout des doigts, et il est venu à l'Opéra Comique, ça a été extraordinaire, et je suis venu en Suisse. J'ai un petit... je fais un petit signe de l'œil à la Suisse, j'aime bien la Suisse. Bon, on aime les endroits où on est heureux, vous savez. Ou des fois parce que vous avez trouvé du bonheur dans un endroit, vous êtes heureux. Même si c'est un endroit mal foutu, des fois je suis allé dans des endroits abominables où j'ai été heureux, et j'en parle avec plaisir. J'étais il y a longtemps en Martinique, c'est un pays extraordinaire, j'y ai pas été heureux, alors je trouve que la Martinique est un pays abominable, mais ça n'a rien à voir, vous comprenez. Et alors, Dagachat, je suis venu donc en Suisse, c'est pour ça que je vous disais ça, au mois de septembre pour enregistrer une émission de télévision. Et j'étais chez une amie, Dag m'a téléphoné en me disant, j'ai été voir Markievicz à l'Institut, alors il m'a expliqué ce que c'était, il me dit, il veut bien te voir. Je l'ai vu, et voilà. Vous savez, ici, mettons, je crois, je le dis dans le bon sens du terme, une œuvre considérable. Tous ces jeunes qui sont ici pour la plupart américains ont des premiers prix de leur conservatoire et viennent ici pour continuer leurs études, enfin pour C'est pour ça qu'il appelle ça hautes études. Je pense qu'il continue à travailler avec des maîtres de musique, enfin de tous les grands flûtistes, oboïstes, cornistes du monde viennent, et ils apprennent à jouer ensemble. Seulement, ils jouent tous passionnément. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un intérêt pécuniaire au bout, vous comprenez ? Ils ont une bourse, ils sont installés ici, et ils n'ont pas de problème du point de vue du quotidien. Et donc, il faut... Pour moi, ça a été extraordinaire. Lundi, j'ai commencé. J'avais peur. Pas tellement avec la chanson de Miami, parce que je la connais bien, mais avec tout le reste, surtout avec le Ravel et le Beethoven que j'ai fait hier. Et je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je connaissais les partitions, c'est tout, vous comprenez. Enfin, je pensais que ça suffisait peut-être pas. Et puis c'est bien, ça va.
Mais... La solitude.
Ben vous savez, moi je me suis trouvé, je me suis cherché, je me suis perdu. Mais vous savez, ça c'est une question de solitaire. J'arrive à faire de la musique, à faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et maintenant, si ça marche, je vais vraiment aller très vite. C'est-à-dire que j'entreprends une nouvelle carrière. Quoi. Oui, je connais un concerto de violon, un violoncelle. Vous savez, moi, je suis négligent et nonchalant. C'est-à-dire que je suis chez moi, je fais des tas de choses, et je ne travaille que dans la mesure où je suis obligé de livrer quelque chose à quelqu'un et un jour donné. Jusqu'à maintenant, j'ai livré très souvent des choses à moi-même, parce que, par exemple, j'avais des enregistrements de disques à faire pour des chansons, pour un disque nouveau, parce que j'avais un contrat de disque dans une maison de disques. Ben, je le faisais parce qu'il fallait, absolument, quoi. Et c'est pas mal, ça, d'être obligé de faire des choses. Parce que sinon, on attend, on tergiverse, on a des problèmes d'esthète, n'est-ce pas ? Comme les imbéciles. Des fois, on est imbécile, c'est pas marrant.
Si nous revenons, Léo Ferré, à cette série, à cette tournée en Suisse romande avec l'Orchestre des Hautes Études Musicales, on pourrait parler un petit peu de ce qu'on va écouter, de ce qu'on va voir. Mais avant cela, j'ai apporté ici le programme avec moi, parce que je trouve qu'il y a une préface, il y a un texte de Léo Ferré qui est très beau. Vous voulez nous en lire un petit passage ?
Si vous voulez. La musique en allait, la musique des ports, la musique de l'eau, quand les oiseaux l'enivrent, la musique du ciel à peine se couchant et celle des amants qui partent à l'automne. La musique des portes, celle des outrages, celle des ennuis calmes avec le plein hiver, quand la neige durcit sous l'autant qui la crève. Des flûtes, des hautbois, des corans en gliche aussi. La clarinette basse, comme une oie, s'exilant dans l'éternel ennui des soleils relevés. Son coude dans mon bec, sur les marées musiques, des harpes là-dessus. Il se défend des mains, mains douces de l'humeur, mains de Ravel, manchot, left hand. Dans cette année 1931, 6 ans avant le basson jazzifiant, 6 ans avant 37 et le 6-8 funeste. Là, il faut tout de même donner quelques précisions. Left hand, c'est parce que ça veut dire en anglais la main gauche. Et 1931, parce que c'est le jour où j'avais assisté à une répétition du concerto pour la main gauche en présence de Ravel dans la salle, et il m'avait vu, il m'avait souri. Moi, j'avais été transporté, bien sûr, tout en restant à ma place. Aujourd'hui, on viendrait demander un autographe. À ce moment-là, ça ne se faisait pas. 6 ans avant le basson jazzifiant, parce qu'il y a dans une partie dans ce concerto qui est, rappelle l'intérêt je sais pas, je crois même l'amour que Ravel a porté au jazz nouveau d'avant 1930. Et ce concerto est une œuvre grave, c'est une danse macabre. On ne l'a jamais dit, il faut le. Et je le prouve, même musicalement. Et avec. C'est une œuvre gigantesque. Alors j'ai dit 6 ans avant 37 et le 6-8 funeste. C'est ce fameux 6-8 qui est pour moi la danse macabre, battant sur la tumeur et la méconnaissance. Vous savez que Ravel avait une tumeur au cerveau, dont il est mort. Ravel manchot, Ravel cafard diésiré. Et ces rondes d'enfants qui sentent négatif. C'est-à-dire des rondes d'enfants, il y a une ronde d'enfants dans ce 6-8. Alors qu'il n'a plus rien de macabre, mais qu'il y a quelque chose de désespéré. Ravel était enfant, je crois qu'il a vécu toute sa vie comme un enfant. Les artistes sont des enfants, toujours. Le sous et l'en-dessous, toujours le moins, dans cette nuit qui n'en finira plus. Des flûtes, des hautbois, des cors en glitch, ma foi. Des bassons souffreteux depuis l'aigu du sacre. Sacré Igor, tu vas décidant de son souffle. C'est marrant parce que Polonici, à la maison où Stravinsky a composé le sacre, vous savez qu'il avait écrit le début du sacre sur un thème russe et il avait fait jouer au basson dans l'extrême aigu. Et regarde-le qui va crever, regarde-le, regarde. Et le basson, il va de son cri de pucelle. J'avais l'âge de Mathieu Zalem, mon fils.
Clarinette au bec, fumant des pastorales. Et la clé sur la table, on les voit s'en aller vers des pays là-bas, devant leurs vitres sales. Ils dérangent la flûte en y soufflant dessus. Pour mieux voir dans la nuit flâner les violoncelles au bras du harpiste inquiet et survenu juste après qu'un violon lui prise en chanterait. Celles du génie à portée de leurs bras, croyant tout inventer, ils réinventent tout, de Debussy à la poule et Schubert dans la voix. Ils s'envolent dans des oiseaux de quatre sous, ils s'envolent dans des oiseaux de quatre sous. Sur leur papier tout pâle, ils écoutent chanter les hasards de la rue et leur pauvre musique dans l'ombre de Bayreuth. Pendant qu'un groupe anglais tire inlassablement ses salves électriques, tire inlassablement ses salves électriques. Ils traînent leur portée au-delà des violons. Ils dérangent la nuit dans le bruit du silence. La tête achalandée de 10 000 sens, le sourire des larmes au bord d'une cadence. Ils maquillent l'orgueil au bras des vanités, ils se tirent dessus quand ils n'ont plus de cible. Ils se montrent du doigt du bout de leur archer qui pend ses cheveux blancs à leur corde
insensible.
Les portes du destin s'entrouvront par hasard, par une clé de sol devenue pathétique. Le choléra de Tchaïkovski sur le boulevard, la rage de Berlioz comme un chien fantastique. La rage de Berlioz comme un chien fantastique. Alors, dans leur miroir, ils regardent passer les chevaux de Mozart à sa dernière fête. L'oreille de Beethoven en train d'imaginer pour la neuvième fois des symphonies muettes, pour la neuvième fois des symphonies muettes. Les musiciens. Les musiciens.
Oui, un orchestre, c'est fantastique. C'est bien, vous savez, lorsqu'on a le contact, quand on est tous ensemble, et puis on rentre dans les yeux de ces gens-là, dans leurs mains, dans leur tête, dans leur corsage, puisqu'il y a beaucoup de filles, on rentre partout, vous comprenez. C'est formidable. Et je pense que on pourrait choisir à quelqu'un comme ça. D'ailleurs, c'est gratuit de dire des choses pareilles parce que on ne risque rien en le disant, parce que ça n'arrive pas. Mais vraiment, ça vaut mieux que de faire 10 000 fois l'amour, de diriger un orchestre. Surtout avec des... davantage, et en premier lieu, je crois, avec des choses qu'on a composées soi-même, parce qu'on donne la vie à quelque chose de sinistrement mort. La musique sur une page, une partition, on n'est jamais sûr qu'elle sera jouée. Hein. C'est vraiment un acte comme ça. Et quand on sait qu'on va la jouer bientôt après, c'est extraordinaire parce que, vous savez, on entend les choses dans la tête, hein, un peu comme ça. Bon, oui, mais quatre corps, les nuits sont dans une harmonie fantastique dans la tête, on les entend comme ça parce que, hein, parce qu'on y pense, mais vraiment, dans une... quand on y est vraiment, c'est fantastique. D'ailleurs, les cornistes ici sont terribles. Et les cuivres aussi. Ils sont tous très bien. Mais alors, ils ont des pupitres de corps et de cuivre fantastiques. Très bien. La musique souvent me prend comme l'amour. Je leur ai dit, quand j'ai dirigé Coriolan hier, vous savez, dans Coriolan, c'est tout simple. Il y a toute l'harmonie qu'on connaît depuis longtemps. Mais et je leur ai dit, en plus, et à Beethoven, c'est-à-dire il y a le génie. Et à un moment, je dirigeais un passage vraiment où c'est Beethoven, ça commence piano, ça fait un lent crescendo pour arriver à la fin très fort. Je leur ai dit, regardez, il rentre, il est là, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, c'est Beethoven. Eh bien, c'est extraordinaire parce que ça, bon, ça les a, je crois, magnifiés, vous comprenez. Et je leur ai dit, ce que j'ai mis là-dedans, quand vous jouez Beethoven, vous êtes Beethoven. Sinon, c'est pas bon. Beethoven, un géant irremplaçable, mais je veux dire que un musicien se prend toujours pour le plus grand musicien, sinon il n'écrirait pas. Comment voulez-vous écrire de la musique après Beethoven, après tous ces grands musiciens? Il faut être vraiment présomptueux pour le faire, ou alors il faut être un enfant. Alors admettons que je sois un enfant, parce que sinon j'aurais honte d'écrire après ces gens-là.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous.
C'est comment la musique, Léo Ferré ?
La musique, je sais pas. Ça fait pleurer, je crois. Parce qu'il faut que la musique fasse pleurer, sinon c'est pas de la musique. Je leur ai dit aussi. Je leur ai dit pleurer, en jouant. C'est pas mal. Je connais pas encore de musique qui soit rigolote, qui fasse faire ho 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 ho. Ça n'existe pas. Et ça, Baudelaire a dit que la beauté était triste. C'est très curieux, ça. C'est triste, la beauté. Pourquoi ça fait pas rire, la beauté ? C'est drôle, ça, non ? Je sais pas, c'est une sorte de divinité confuse qu'on porte en nous. Tristesse magique et le génie, c'est triste, d'ailleurs.
Je continue ma vie d'artiste plus tard, sans trop savoir pourquoi un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais, un peu triste, toi qui sais, tu lui diras, je m'en fiche.
La vie d'artiste, et puis je le dis au piano, et puis après j'enchaîne sur la préface, qui est une chose qui est incluse dans un disque que j'ai enregistré il y a 2 ou 3 ans. Et puis après je mêle à la préface Coriolan, je finis la préface, je fais la chanson du Mal-aimé de Guillaume Apollinaire, en dirigeant l'orchestre, bien sûr, et en chantant et en disant ce que. Et je me demande comment je vais arriver à être assez fort jusqu'à la fin, parce que ça va poser des problèmes pour moi. Ne chantez pas la mort, qui est une chanson dont les paroles sont de Cosimon. L'oppression, qui est en France une chanson dite sale. C'est un gros mot, l'oppression, en France, vous savez. On n'a jamais passé à la radio. Les amants tristes, que je vais enchaîner à la solitude. Laquelle solitude ? Je vais l'enchaîner au concerto pour la main gauche de Ravel, joué par un manchot dans l'idée, parce qu'il a 2 mains, ce garçon. Parce que tellement il s'est mis ça dans la tête, et qui c'était vraiment un musicien extraordinaire qui s'appelle Dagachatz, qui est un Suédois qui habite en Suisse depuis quelques années. Et puis l'espoir. Et puis je suis aidé dans le mal-aimé, dans les amants tristes, et dans l'espoir par une camarade à moi qui vient de Paris, qui arrive ce soir, qui s'appelle Jeannine de Valène, qui est une grande chanteuse, et qui a d'ailleurs chanter des choses qu'elle va chanter dans les disques que j'ai fait, qui sont la chanson du mal-aimé, en tout cas pour ce qui la concerne, les amants tristes et l'espoir. Et voilà.
T'es rencontré par hasard, ici, ailleurs, ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver, et tu croyais en ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours. Profites-en, mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Thank you.
Et maintenant, tu vas partir. Tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi. Je conserve le piano.
Ma vie d'artiste plus tard, sans trop savoir pourquoi un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais, tu lui diras: je m'en fiche. Cette parole qui traîne au nez de catastrophe, qui vaut bien cent strophes, qui te suffit quand je la chante, qui coule en toi quand je t'enchante, cette parole. Cette parole que tu syllabes après la fête, qui met la fête dans ta tête, et puis ta tête dans la mienne, puis ma tête dans la tienne,
cette parole. Barré du dictionnaire, où elle n'avait plus rien à faire, cette parole.
Cette parole qui peuple notre solitude, qui meurt au seuil de l'habitude, qui se fait avant de se dire, qu'on dit quand il n'y a plus rien à dire. Cette parole.
Cette parole, comme une arme contre l'offense, comme un sourire du silence, comme un passeur de l'autre monde, comme un destin qui fait sa ronde, cette cette parole, comme une porte sur le large, comme mon texte dans ta marche, comme tes yeux dans mon ramage, comme moi dans ton fuselage.
parole. Comme le salaire. Comme le pavé qui lève. Cette parole.
Hervé Bazin, je voudrais vous proposer de regarder un autre événement que vous avez sous les yeux, sous l'autre récepteur, Léo Ferré. Léo Ferré, dont c'est ce soir la générale au Palais des Congrès, à la Porte Maillot à Paris, propose un spectacle tout à fait étonnant. Cet excellent musicien devient chef d'orchestre, il chante, il tempête, il court à pas menus à travers toute la scène qui ressemble à une proue de bateau. Je crois que c'est vraiment un moment, un virage dans la carrière de Léo Ferré et probablement aussi dans l'alliance de la musique et de la chanson. J'aurais retrouvé France Roche en direct au Palais des Congrès, France.
Oui.
Où en est Léo?
Eh bien, il est en train de chanter Love. Et il y a 30 ans, quand il a débuté dans les petits cabarets et qu'il s'accompagnait tout seul au piano, embusqué derrière ses lunettes noires, on ne pouvait pas imaginer que ce Léo Ferré, qui était considéré comme peu public, passerait de music hall de plus en plus grand, aurait son nom de plus en plus grand à l'affiche, et finirait dans ce palais des congrès où il est jusqu'au 30 novembre à diriger l'orchestre Pas de Loup. Mais il le dirige vraiment tout seul, tout en chantant, et comme le voilà capitaine de ce grand navire qui cingle vers la haute mer de la musique, il se paye même le luxe, sans chanter, de diriger Beethoven et Ravel.
Léo Ferré en direct du palais des congrès à Paris.
Pour être heureux, comme un petit enfant candide, je ne veux jamais l'oublier, ma colombe, ma blanche rade, oh Marguerite. Exfoliée, mon île au loin m'a désirée. Ma robe mentir au les satyres et les pyrostes, les égypans, les feux follets et les destins damnés ou faustes, la corde au cou comme à Calais. Sur ma douleur, quel holocauste. Douleur qui double les destins, la licorne et le capricorne. mon âme et mon corps incertain te fuient. Ô bûcher, divin corps, des affres, des fleurs du matin.
France Hoche, France, quelle est la caractéristique du récital de Léo là? Parce que j'ai l'impression que les morceaux qu'il interprète ou les pièces qu'il dirige sont assez longues dans cette première partie. France?
Oh.
France Roche? Non? On vous... Oui, France, dites-moi si les morceaux que dirige Léo Ferré et si les chansons qu'il interprète sont beaucoup plus longues que ce à quoi on est habitué.
Beaucoup, beaucoup plus longues.
Beaucoup plus longues, ça veut dire quoi?
Beaucoup plus longues, il y a une chanson. Il y a une chanson de 45 minutes, une chanson de 30 minutes, la plus courte à 5 minutes, alors qu'une chanson de variété ordinaire à 3 minutes et demie, 4 minutes tout au plus.
Quelle est la réaction du public au Palais des Congrès de voir un monsieur qui chante et qui dirige en même temps?
Mais vous savez, je crois que les gens se trouvent comme emportés par une grande tempête. Un orchestre symphonique et quelqu'un qui a du plaisir à déchaîner comme ça tous ces vents, ça emporte la salle.
On vous retrouve tout à l'heure et j'espère que Léo aura terminé sa première partie pour qu'on puisse converser un petit peu avec lui. En direct, Léo Ferré vient de sortir de scène. Nous nous proposions de vous le faire vivre ce soir pour apporter chez vous ce spectacle d'un homme qui travaille dans un genre qui probablement évolue énormément. Je voudrais qu'on consacre tout de suite quelques minutes à Léo Ferré. France, vous m'entendez ?
Oui.
France, Léo
oui,
Ferré.
Oui, Léo Ferré vient de sortir de scène. Il est dans sa loge où l'attend la photo de son fils Mathieu. Toute grande, c'est la seule décoration de la pièce.
Léo, Mathieu n'est pas avec vous ?
Non.
Qu'en avez-vous fait ?
Il est parti en Italie parce qu'il menait une vie de bâton de chaise ici.
Ah.
Et il ne mangeait plus, il se couchait à 3h du matin.
Vous êtes un père attentif, Léo ?
Très. Attentif, mais je suis très copain avec lui.
J'ai lu une chose, France, je pense que vous l'avez vu comme moi, qui était assez surprenante dans une déclaration récente de Léo, qui disait « J'avais pensé que les Guenons étaient, en gros, les descendants de l'homme le plus attachant, le plus intelligent et tout. Je me suis trompé. » Alors, je pense qu'il n'y avait pas qu'un gag dans cette affirmation. Qu'est-ce qu'il y a derrière, Léo Ferré ?
Bah, vous savez, un enfant, c'est banal, mais quand il est à soi, ça devient formidable.
Comment se fait-il que vous l'ayez découvert si tard ?
Je ne sais pas. Vous savez, moi, je n'ai jamais eu d'enfant. Je n'ai jamais fait d'enfant à une femme qu'à la mienne, la dernière, qui sera la dernière parce qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Je n'ai jamais voulu faire d'enfant à personne. Au fond, il fallait que je fasse cet enfant-là, Mathieu, vous comprenez. Moi, je n'ai jamais même risqué d'avoir un enfant, jamais. Voilà. C'est comme ça.
Mais quand vous dites risquer d'avoir un enfant, c'est une réaction de pessimiste. Et pendant que vous étiez en train de chanter, je regardais le texte que vous avez imprimé vous-même. Et je me disais que, pourtant, vos chansons semblent être devenues de plus en plus noires. Et vous écrivez, cependant, dans ce programme, que vous êtes formidablement heureux. Comment expliquez-vous que vous êtes formidablement heureux et en même temps écrivez des chansons aussi pessimistes et aussi terribles?
Non, moi, j'écris jamais de choses pessimistes. Vous savez, il faut regarder les choses en face. Et puis, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, peut-être que je vois les choses différemment des autres. Et on me dit que je suis désespéré, le désespoir. Mais alors, je répète, le désespoir, c'est... Il faut s'y installer, mais dans le désespoir, il y a le mot espoir encore, voilà.
Oui, d'ailleurs, je pensais, quand j'entendais certaines de vos musiques, à ce mot que Jouvet a dit et qui était rapporté par Léo Lapara, « J'aime tellement la vie que c'en est dégoûtant ». Et on a l'impression que, bien que vous soyez très pessimiste, vous aimez beaucoup la vie. Mais la vie rouge.
La vie rouge, noire, la vie jaune, la vie verte. Enfin, moi je suis très heureux maintenant. Formidablement heureux. Je m'emmerdais à chanter depuis des années. Depuis 3 ans, je m'emmerdais vraiment à chanter. J'en avais assez. J'avais assez de me montrer comme ça, avec des bandes d'orchestre autour de moi. Et puis, j'aimais tellement aimer chanter. Je le faisais bien parce que je savais le faire depuis longtemps. Mais là, c'est extraordinaire. Là, je commence vraiment à vivre.
C'est un vieux rêve, Léo, que de, diriger 120 personnes, de chanter en même temps, vous faites tout, c'est tout juste si vous ne placez pas les chaises. Et hier soir, France et moi, nous avons passé la soirée à regarder votre spectacle. On avait l'impression d'un barde sur la proue d'un bateau. Moi, je me demande si le chant n'en souffre pas dans tout ça, au profit de votre passion de la direction de la musique.
Le chant ? Bon, oui. Les gens, ils prendront ce que je chante, comme je sens, mais moi, maintenant, je me fais plaisir à moi. Voilà.
Et puis que vous l'écrivez, vous qui jouez Beethoven, vous êtes Beethoven.
Il faut dire, je dis aux musiciens, quand vous jouez Beethoven, vous êtes, si vous n'êtes pas Beethoven, vous ne pouvez pas jouer Beethoven. Je leur dis, écrivez, lisez bien sûr ce qui est écrit, mais essayez de lire ce qui n'est pas écrit, c'est-à-dire ça ou ça. Sinon, la musique, ça ne veut rien dire. Et quand vous jouez Ravel, il faut que vous soyez Ravel. Et ça leur ferait plaisir à tous les deux, à Beethoven et à Ravel, qui ont été très malheureux.
Léo, les hommes qui, comme moi, ont 35 ans, là, cette génération qui est née avec la guerre, ont toujours un peu regretté que dans leur programme de français, il n'y ait pas un petit coup de Léo Ferré dans les dictées ou dans les programmes de baccalauréat. Mais tout de même, maintenant, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une petite part, disons, est-ce que vous n'avez pas joué une part de comédie dans votre carrière de chanteur? Est-ce que vous n'en avez pas eu assez de faire trop plaisir?
Oh, j'en sais rien, moi je pense jamais à ça, vous savez. Oh, si vous saviez, est-ce que vous êtes loin du compte?
Dites-moi, quel est le compte?
Bah, j'ai chanté parce que ça m'a permis de vivre d'abord, et puis parce que j'avais de la voix, et puis si j'avais pas eu de voix, j'aurais pas pu écrire des chansons, quelles qu'elles soient, parce que personne n'aurait chanté mes chansons, c'est tout. Alors, j'ai longtemps attendu, puis moi j'avais la musique qui me travaillait, puis vous savez, la musique, il fallait rentrer dans une mafia. Comme je disais l'autre jour, je ne sais pas rentrer dans les mafias, alors je me suis fait ma mafia à moi, tout seul, et je suis rentré dans la musique, j'espère y être rentré du pied gauche pour que ça me porte bonheur.
France ?
Puisque vous vivez à Sienne, et que vous y êtes heureux, pourquoi et comment êtes-vous heureux là-bas ?
Parce que j'aime beaucoup l'Italie, parce que je suis certainement d'origine italienne, puisque à Monaco, je suis monégasque, et autrefois ça, c'était génois tout ça, et mes grands-parents étaient italiens, sauf ma grand-mère maternelle, et pas paternelle. Et puis moi j'aime beaucoup l'Italie parce que ce sont des gens passionnés encore, et pas tout à fait encore entièrement immatriculés comme nous le sommes ici, comme le sont pas la plupart des gens. Là-bas les gens sont, ils croient encore un peu au Père Noël qui chante, et puis vous savez, le soleil arrange tout. Ah, ça c'est extraordinaire. Lorsqu'il fait un beau soleil à Paris, on aime Paris, même la banlieue qu'on dit horrible avec ses grandes maisons. C'est très beau parce que ça ressemble toujours à un beau tableau. Lorsqu'il y a le soleil à Paris, vraiment, on aime Paris. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous êtes mal lotis ici avec le temps gris qui a commencé. Et je souhaite aux gens d'ici, aux gens que j'aime, même aux gens que je ne connais pas et que j'aime aussi. C'est beaucoup plus simple de pouvoir aimer les gens qu'on ne connaît pas non plus. Je leur souhaite d'avoir le soleil très très souvent à Paris, parce que ça arrange bien les choses.
Hervé Bazin, qu'est-ce qui vous frappe dans Léo Ferré que vous avez eu en direct là devant vous?
Ce reste de passion. Voilà. Quoi qu'il dise, il n'a qu'un souci, c'est de se renouveler jusqu'au bout.
Léo, c'est terrible ce que vient de dire Hervé Bazin. Il a dit un reste de passion. Vous l'approuvez ou non?
Un reste? Non, mais il vient de dire une chose, de se renouveler, parce que, au fond, c'est pas. Vous savez, un artiste, lui, il doit le savoir, lui. Ben, il y a une évolution qui se fait, sinon on s'ennuie, vous savez, tout seul. Parce que quand on travaille, quand on écrit, lui, quand il écrit ses bouquins, je pense pas qu'il pense au public qui va lire. D'abord, il pense parce qu'il peut pas faire autre chose. Il écrit, parce que ça lui fait plaisir. Et puis moi, quand j'écris de la musique, c'est pareil, vous savez. Et puis après, évidemment, on écrit et ça sort, ça part dans des disques, lui, dans des bouquins et tout ça. Seulement, cette passion, moi, je l'ai passion, la passion bouffe. Et c'est bon. Ah,
Est-ce que les prochaines années de votre vie, Léo, seront plus paisibles que l'homme relativement déchiré, révolté que vous êtes encore?
Moi, je ne suis pas révolté, je ne suis pas déchiré. C'est des histoires, tout ça. Je suis ni révolté, ni déchiré. Seulement, si les gens ne se révoltent pas. Alors, moi, quand je dis quelque chose, je fais comme ça, on dit « Ouh là là, ils se révoltent, c'est des méchants ». Mais les gens, ils devraient être plus méchants qu'ils ne sont, vous comprenez? Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme ça.
Vous n'avez pas l'impression que les chansons que vous avez composées il y a une dizaine d'années étaient, ne serait-ce que sur le plan de l'amour, plus tendres, moins exacerbées qu'elles le sont maintenant?
Non, moi j'écris encore des chansons d'amour, c'est... Oh, puis les chansons, je dis pas je vais écrire une chanson d'amour. Love, c'est une chanson d'amour, non?
Oui, mais Love, c'est pas Joli Môme, c'est pas Paris Canaille.
Joli Môme, ça me plaît pas beaucoup, j'ai jamais su la chanter. Les gens, Catherine Sauvage et Gréco, qui ont chanté ces chansons, la chantent beaucoup mieux que moi. Les gens qui, c'est comme Paris Canaille, je ne sais pas chanter ce genre de chansons. Voilà, c'est pour ça au fond que je les aime pas beaucoup, parce que je ne sais pas les chanter. Voilà. Moi, je ne suis pas tellement un chanteur terrible, voilà, j'ai un peu de voix, heureusement. Ça me permet aussi de faire de la musique. Passionnément, Monsieur Bazin.
Thank you. C'est ce qui manque dans ce monde. C'est ce qui manque. L'intelligence. La connerie, c'est trop vivant, trop présent.